Oui, alors comme vous venez de le dire, je dirige le chœur de chambre Elana Veva, qui a été fondé il y a 10 ans. Donc je ne dis pas que c'est moi qui l'ai fondé, parce qu'en fait, avec les choristes, ce sont les choristes qui sont venus me trouver, on a fondé ensemble. Et c'était la volonté de faire un ensemble pour chanter de la musique des 100 dernières années. Mais plus ça va, plus on chante plutôt la musique des 20 dernières années, en fait. Donc la musique contemporaine, la musique de notre temps, et avec une exigence de qualité. Enfin, il y a l'exigence, alors on n'a peut-être pas toujours. On répond peut-être pas toujours autant qu'on voudrait à notre exigence, mais voilà, avec cette exigence-là, voilà, un
Donc,
tout.
Elana Veva, c'est un chœur de chambre, c'est bien ça?
Ouais.
Comment vous définirez la notion de chœur de chambre?
Un chœur de chambre, ça veut dire que ça rentre dans une chambre. Ça veut dire qu'on n'est pas très nombreux. Donc, par exemple, dans la version 2016, là, elles sont neuf.
Vous êtes neuf
Neuf
chanteuses, du coup.
chanteuses,
Neuf
voilà.
chanteuses plus vous
Voilà,
en direction.
c'est ça.
Et c'est pas professionnel, c'est des chanteuses
Voilà,
amateurs.
des chanteuses, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas musiciennes. Je pense qu'il y en a plus de la moitié qui font de la musique leur métier. Mais pas, elles sont pas. Quand elles viennent chanter à Elana Veva, elles gagnent pas de sous. Et on fait ça pour notre plaisir. Voilà.
Oui, c'est pas leur activité principale.
Non, pas
Donc
du tout.
la structure et la Naveva, c'est quoi? C'est une
C'est une
association.
association, loi 1901.
C'est une association du coup qui a plus de 10 ans.
Eh ouais.
Plus de 10 ans. Et l'objectif, c'était vraiment ça, c'était de faire partager ces musiques.
Tout à fait. Voilà. Et notre premier objectif, c'était d'abord de les chanter, vraiment, ça faut être honnête, hein. Et ça a été très vite de les partager, puisque la musique, c'est un art du spectacle, et on ne peut pas juste rester dans notre salle de bain à chanter, il faut faire partager. Voilà.
Mais du coup, si c'est pas vous qui avez eu l'idée de fonder cette compagnie, bah c'est pas vraiment une compagnie, mais ce chœur de
Ah ouais?
chambre, vous vous connaissiez déjà avec les choristes
Oui,
ou...
alors tout au début, en fait, moi j'enseigne la musique au lycée Grandmont. Donc, comme là-bas, j'ai une chorale de, selon les années, entre 100 et 150 lycéens, et puis un orchestre, selon les années, entre 30 et 50 musiciens. Donc, j'ai des centaines d'anciens élèves. Et donc, à l'origine, c'était des anciens élèves qui voulaient continuer à chanter avec moi, effectivement.
Ah oui, donc c'est des élèves que vous avez eus quand elles étaient lycéennes?
Ouais. Alors maintenant, ça a beaucoup
Oui.
évolué et il en reste une. Il en reste une qui est encore une ancienne élève. Enfin, je sais même plus parce que je les considère quand même plus comme des anciennes élèves. Il en reste, ouais, une.
Mais la création, du coup, c'est vraiment ça. C'est
À la
des
création, c'était
élèves qui
ça.
sont venus
Ouais.
vous retrouver, en
Oui, c'est
fait,
ça.
pour monter un chœur
Voilà. De
sous votre
toute
direction.
génération, d'ailleurs. Il y en avait qui avaient juste 20 ans et d'autres qui avaient déjà 30, 35 ans. Voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes neuf chanteuses plus vous.
Voilà.
À la base, c'était un chœur de combien de personnes?
Il n'y a jamais eu de base parce qu'on a beaucoup bougé, donc je me souviens plus. Au tout début, si on devait être peut-être une douzaine, on a été jusqu'à 15, 18, mais on n'a jamais voulu être plus, puisque l'intérêt justement du chœur de chambre, c'est
D'être en comité
et
restreint.
puis ouais, c'est l'exigence, c'est-à-dire que quand on est, oui, on chante à plusieurs voix, donc on appelle ça des pupitres, hein, les sopranos. Là. Donc quand on est 4, 5 par voix maximum, quoi, donc ça veut dire que chacun est responsabilisé. Alors, il y a une exigence déjà d'assiduité, parce que c'est pas possible autrement. Et puis même musicalement, il y a une responsabilité musicale, donc c'est plus intéressant pour tout le monde.
Et vous-même, vous n'avez jamais chanté, vous êtes toujours...
À Elana Veva, j'ai jamais chanté, mais j'ai chanté dans un passé. Plus ou moins lointain, oui. On est quasiment obligé quand on est chef de chœur, il faut savoir chanter.
Est-ce que chef de chœur, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément en quoi ça consiste exactement?
Alors, c'est la personne qu'on voit de dos toujours et qui agite les bras devant une chorale. Bon, évidemment, ça c'est un peu plus compliqué que ça comme travail, mais oui, c'est ça, le chef de chœur.
Pour faire le raccourci, c'est le chef d'orchestre des chanteurs.
C'est exactement ça, voilà.
Depuis plus de 10 ans, donc ce chœur Elena Veva, on peut avoir un rapide historique ou des grosses évolutions qu'il y a eu au sein de l'association?
Oui, alors on a fait. Bon, dans les. Qu'est-ce qu'on a fait de vraiment rigolo? Ah oui, aussi on a participé au Florilège vocal, au concours national, et on a quand même eu deux troisième prix. On était très fiers parce que, d'une part, on était le premier chœur tourangeau à rentrer au palmarès, Et puis, il n'y a pas eu de deuxième prix ni de premier prix. Donc, on n'a pas été très contents de notre prestation. On était un peu tétanisés par le trac. Donc, on ne s'est pas trouvé très brillant. Mais quand même, on est allé au Florilège. Donc on était très contents. Et après, ça a un petit peu dégivré le Florilège. C'est-à-dire que d'autres chœurs amateurs de la région aussi ont osé y aller. Alors que c'était le Florilège, le concours national était... Ça semblait inaccessible. Et puis depuis nous, le niveau a beaucoup monté, pour être honnête. C'est-à-dire qu'on y serait retourné avec le même niveau 2 ans après. Je pense qu'on n'aurait vraiment même pas eu un troisième prix. Mais bon. Donc on a fait ça de rigolo. Qu'est-ce qu'on a fait ? Une année, on a fait il y a 2 ans un projet avec Michel Onfray. C'est juste avant qu'il devienne vraiment insupportable. Donc à quelques semaines près, on était vraiment grillés. Mais il nous a écrit un texte, donc c'était en 2015. Enfin, j'avais fait une commande à un compositeur qui était ami avec Michel Onfray. Donc on s'est retrouvés à créer une œuvre de Michel Onfray il y a 2 ans. Voilà. Sinon on fait souvent des commandes à des compositeurs. Donc on a créé une œuvre de Thierry Machuel, ça c'était un grand bonheur. On a créé une œuvre de Bruno Régnier, voilà.
Et au sein du chœur, du coup, 9 chanteuses. Mmh. Et comment ça se passe? Ça bouge souvent? C'est des gens qui partent ou qui restent sur les années?
Alors là, 9 chanteuses, c'est vraiment une année exceptionnelle, parce que d'habitude, c'est un chœur mixte. Donc il y a des filles et des garçons. Enfin, d'ailleurs, là, cette année, il y a des filles et des garçons. C'est-à-dire que c'est 9 voix égales, 9 voix aiguës. Mais en fait, il y a des hommes et des femmes. Mais c'est 9 voix aiguës. Mais en général, ça bouge. Les jeunes bougent beaucoup, par définition, puisque les étudiants s'en vont. Donc ceux qui sont un peu moins jeunes, ils sont un peu plus fidèles. Et puis les jeunes, ils bougent, voilà. Donc ça tourne pas mal.
Parce que c'est quoi, à peu près, la moyenne d'âge de la compagnie?
Alors,
c'est très éclectique.
Ça dépend vraiment des années, quoi. C'est-à-dire que les années, quand on était en chœur mixte, comme on n'est pas nombreux, il suffit qu'on ait 2 étudiants pour que ça fasse baisser la moyenne à 25 ans. Et puis il suffit qu'il y en ait un qui parte pour que ça remonte, je ne saurais pas vous dire. Mais là, cette année, on a fait une année féminine et un peu moins jeune. Ouais. Mais bon, il ne faut pas qu'elle m'écoute parce qu'il y en a des très jeunes. Elles sont toutes très belles en plus.
Vous avez une idée du nombre de spectacles? Bah, pas vraiment de spectacles, parce qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Mmh. Mais là, c'est votre premier vrai spectacle en tant que tel. Mais du nombre de concerts que vous avez pu donner en ces 10 ans?
Alors, vous allez devoir faire une multiplication, parce que je pense qu'on donne entre 5 et 10 concerts par an. Alors, 10, c'est facile, mais je pense que c'est quand même plutôt entre 7-8 concerts par an depuis 10 ans. Ça, c'est facile. Ça fait 70 concerts.
Ah oui, donc c'est quand même
ça
un paquet de concerts.
Ça me paraît énorme comme ça, mais je pense. Ouais.
Et vous avez dirigé ces concerts?
Ouais. Bah oui. Mais diriger, c'est rien. Hein. C'est pas ça qui est le plus compliqué.
Non, mais quand même, faut diriger 70 concerts. C'est...
Ouais. Et puis, il faut les chanter.
Oui, il faut les chanter, en plus.
Oui, ils les chantent. Il voilà.
faut en plus les chanter. Et vous l'avez dit, du coup, pour 2017, vous souhaitez redevenir à un chœur mixte.
Oui.
Et ça, quand ça se passe, vous lancez des appels par vos
élèves? C'est compliqué, c'est-à-dire comme toutes les chorales du monde, je pense on a du mal à trouver des hommes, parce que l'homme, surtout l'homme occidental chante peu. Et donc, comme vraiment, si vous allez sur les sites de chorales, vous trouvez que ça, des gens qui cherchent des hommes. Et particulièrement à Tours, qui est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de chorales. Donc, c'est compliqué, faut chercher. C'est d'ailleurs pour ça que cette année, j'ai fait un chœur de femmes. J'en avais marre de courir après les hommes.
Et voilà. Des anciens qui étaient déjà dans le chœur et qui peuvent revenir, ça arrive ou...
Ah oui, ça arrive, ça, fréquemment. Oui, oui, tout à fait.
Parce que pour qu'on se rende compte, il y a combien à peu près de chœurs comme ça sur la région?
Comme ça, il n'y en a pas, mais bien sûr.
Non, mais des chœurs, des chorales.
Des dizaines. Des chorales, il y en a des dizaines. Il y a un organisme qui s'appelle le CEPRAVOIS, qui est missionné par la région, qui s'occupe de toutes les chorales et qui les recense, et qui vous répondrait encore mieux que moi. Mais il y en a énormément, oui, des chorales, de tout répertoire.
Ce soir, vous êtes venu pour nous parler plus en détail du spectacle actuel, du coup, qui est votre premier spectacle, La haine de la musique.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce spectacle?
Alors, La haine de la musique, ça n'est pas un titre choisi par provocation, c'est le titre d'un livre de Pascal Quignard, que j'aime particulièrement. Donc c'est un écrivain, un grand écrivain français qui n'est pas très connu du grand public, quoique, parce qu'il est connu pour avoir écrit Tous les matins du monde. Voilà. Il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Puis il a eu un prix Goncourt, il me semble.
Oui, il y a une dizaine d'années, ouais. Avec un des volumes du Dernier Royaume, je ne sais plus lequel. Et donc, il y a des extraits dans ce spectacle. Donc, il y a une comédienne qui est Nelly Policani, que les Tourangeaux connaissent, parce qu'elle était au JRTC encore jusqu'à l'année dernière. Donc, ils l'ont beaucoup vue sur la scène du Théâtre Olympia. Une ancienne élève de la Comédie Française. Et on l'a encore vue dans presque l'Italie, au Théâtre Olympia, le mois dernier. Donc, c'est cette jeune comédienne qui assume des extraits de textes de l'âme de la musique de Pascal Quignard. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a donc les 9 chanteuses d'Elena Veva qui chantent des pièces du XXe siècle, des pièces savantes du XXe siècle, dont Thierry Machuel, Bruno Régnier, Francis Poulenc, John Tavener. Il y a une chanteuse centenaire, Speranza von Gluck, qui chante une pièce de Bruno Régnier. Et il y a une flûtiste, Juliette Cognot, et un guitariste électrique, Yacine Aitamer, qui accompagnent certaines pièces, qui ne sont pas vraiment prévues pour être accompagnées par ces instruments-là, qui improvisent, soit en dialogue avec la comédienne, soit dans le cadre de certaines pièces. L'ensemble est mis en scène, est mis en lumière par Yvan Coulon, dont j'apprécie beaucoup le travail. Voilà.
Et la forme de ce spectacle, en fait, c'est un peu un mélange entre un concert, entre du théâtre, entre...
C'est ça. J'ai pas trouvé de nom tout à l'heure. Vous m'avez posé la question. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a quand même plus de musique que de texte. C'est la musique qui domine. Donc mais c'est pas totalement un concert puisqu'il y a aussi du texte et voilà. Et il n'y a pas tout à fait que de la musique savante, puis il y a aussi de l'improvisation, la musique improvisée à la flûte et à la guitare électrique. Voilà, donc je ne sais pas comment on va appeler ça.
Du coup, c'est la première fois que vous travaillez avec d'autres gens, des musiciens, des comédiens
On a déjà travaillé avec des musiciens, mais pour des choses presque plus prévisibles, c'est-à-dire des pièces, par exemple les pièces de Philippe Hersant il y a 2 ans, qui étaient écrites pour chœur et basson, ou chœur et violon, ou la pièce de Pierre Tillois qu'on a créée il y a 2 ans, qui était écrite pour chœur et flûte traversière. J'ai aussi déjà travaillé avec un autre comédien du JRTC, c'était Blaise Pettebone, parce que une œuvre musicale prévoyait la participation d'un récitant. Mais c'est la première fois, c'est la première fois que je construis un spectacle de toute pièce moi-même. Voilà.
Et donc c'est une création de 2016, ce spectacle, vous l'avez préparé depuis quand ?
Non, on a commencé à répéter musicalement, oui, en janvier 2016, tout à fait. On a été en résidence cet été à Montbazon, on a été en résidence de mise en scène à la Chapelle Sainte-Anne, à La Riche, et puis voilà.
Il y a eu un financement participatif autour du spectacle, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. C'était quoi l'objectif ? Et c'est quoi du coup, vu que c'est pas fini ?
Alors l'objectif, c'était de pouvoir rémunérer correctement les musiciens professionnels, et la comédienne et le créateur Lumière qui nous accompagne. Puisque nous, on est amateurs, mais bon, on a évidemment les frais que toutes les compagnies peuvent avoir, c'est-à-dire de location de salles, SACEM et tout ça. Mais les personnes qui nous accompagnent sont des professionnels, donc eux, il faut les rémunérer et payer les charges. Donc le financement participatif, il sert à ça.
Vous avez atteint le premier palier assez rapidement.
Oui, en 10 jours. Oui.
J'imagine que vous étiez fière ou contente.
On était très contents, oui.
Une bonne nouvelle. Et du coup, le plus, c'est pour...
Le plus, c'est pour les payer un peu plus décemment, parce que le financement participatif, le premier palier nous permettait de les payer un peu vraiment le minimum, quoi. Décent, et notamment pas les répétitions. Or, les musiciens, si on ne leur paye pas les répétitions, je trouve que c'est à peine correct. Et ils ont beaucoup répété parce que le guitariste électrique, par exemple, ce n'est pas du tout son univers. Et on lui a fait jouer des choses invraisemblables. Il a fait ça avec brio, comme la flûtiste d'ailleurs. Mais c'était beaucoup de travail.
D'ailleurs, c'était une volonté de mettre une guitare électrique sur des musiques.
Oui, tout à fait. J'avais envie de faire se rencontrer les deux univers, mais sans les. C'est un peu une provocation dans le texte quand je dis sans les bouscule, que je les bouscule. En fait, sans les bousculer. Je crois qu'on s'en aperçoit à peine. Enfin, c'est comme si c'était fait pour.
C'est plus l'objectif de casser les codes que de. Oui. Que de vraiment bousculer
oui,
le musicien.
Oui, en fait, il n'y a pas d'envie de provocation, mais c'était aussi pour montrer que c'était pratiquement... C'est presque naturel, oui.
Il y a déjà eu plusieurs représentations oui. De la haine de la musique. Comment ça s'est passé depuis novembre?
Oui, bah, en fait, le public... Alors peut-être que les gens qui ne sont pas contents ne sont pas restés pour nous le dire, donc ça prouve qu'ils n'étaient pas si mécontents que ça, parce que sinon ils seraient restés. Mais le public avec qui on a pu entrer en contact, puisqu'on a organisé, la Chapelle Sainte-Anne organise un pot à la fin de chaque spectacle, nous-mêmes on a organisé des pots, les gens étaient souvent surpris, mais généralement on semblait apprécier le mix de tous ces éléments, oui.
Et donc la dernière c'est jeudi soir?
C'est demain.
C'est vraiment la dernière?
C'est la dernière que nous avons prévue, là. Mais c'est vrai que... Déjà, moi, je tiens beaucoup à jouer plusieurs fois. Dans mon travail au lycée, c'est la même chose. C'est-à-dire jouer une seule fois quand on a travaillé pendant un an, c'est insupportable. Et puis, ce que j'aime voir dans le spectacle vivant, c'est voir évoluer les spectacles, voir comment évoluent même les enchaînements, comment ça se fluidifie. Et puis, même quand on rate un morceau une fois, bon, c'est pas sympa de le rater, mais c'est bien de voir comment on va mieux le réussir le lendemain, comment le public va le percevoir différemment une fois à l'autre, comment il le perçoit quand il a trop froid, par exemple, au temps protestant, comment il va mieux le percevoir demain, parce qu'il aura moins froid, ça, le genre de que game. Donc moi, je tiens beaucoup à ça. Quitte à ce que le public se répartisse un peu et qu'il y ait moins de monde à chaque fois, c'est pas très grave. Donc déjà, 5 fois, c'est très bien. Après, si on pouvait le jouer ailleurs, ce serait bien, mais là, il faudrait qu'on soit invité parce que justement, nos finances ne nous permettent pas de...
Même en fonction des salles, j'imagine que de jouer dans différentes salles, l'acoustique n'est pas la même.
Pas du tout la même. Notamment entre la Chapelle Sainte-Anne et le Temple, il y avait un monde... Voilà.
On peut rappeler le lieu et l'horaire du coup de cette dernière pour nos auditeurs.
Voilà, donc demain, c'est la haine de la musique, c'est salle Jean de Hockeghem, donc place de Châteauneuf à Tours, à 20h30.
Jeudi soir, salle Jean de Hockeghem. Et bah très bien, on va vous remercier Isabelle Fesse d'être venue dans Sortez ce soir.
Merci.